Chapitre 22. Plissant les yeux, Nietzsche repéra Richard tout au long du long chemin de ronde. Appuyé au créneau au pied d'une immense tour, il contemplait la ville déserte en contrebas. Au crépuscule, les champs qui s'étendaient dans le lointain paraissaient plus gris que vert, un océan un peu maussade sous un ciel résolument plombé. Debout près de son seigneur, Kara veillait au grain en silence. Connaissant parfaitement bien Richard, Nietzsche vit du premier coup d'œil qu'il était tendu comme un arc. Malgré son calme apparent, Kara bouillait intérieurement, c'était facile à voir. L'estomac noué, Nietzsche approcha de son ami à pas vifs. Quelques grosses gouttes de pluie tombaient sporadiquement, comme si les lourds nuages sombres se préparaient à déverser des trombes d'eau sur le monde. Dans le lointain, des roulements de tonnerre laissaient supposer que le déluge ne tarderait plus trop. Malgré l'orage qui s'annonçait, l'air était étrangement paisible. La chaleur de la journée s'était dissipée, à croire qu'elle n'avait aucune envie d'affronter la tempête à venir. Arrivé près de Richard, Nietzsche s'immobilisa, s'appuya d'une main au mur de pierre et prit une grande inspiration. « Rika m'a dit que tu voulais me voir. Il paraît que c'est urgent. » En parfaite harmonie avec les conditions climatiques, le sourcier semblait sur le point d'exploser. « Je dois partir le plus vite possible. » Nietzsche ne fut pas plus surprise que cela. Elle jeta un coup d'œil à Kara qui ne broncha pas. Richard broyait du noir depuis des jours. Plongé dans un mutisme têtu, il avait tiré toutes les conclusions possibles des nouvelles apportées par Djebra et Shota. Croyant avoir affaire à une novice, Zed avait conseillé à Nietzsche de ne pas déranger le sourcier. Plus habitué que quiconque aux crises de mauvaise humeur de Richard, la magicienne avait déjà décidé de se tenir loin de son ami tant qu'il ne l'appellerait pas. « Je viens avec toi, » dit-elle, son ton indiquant clairement que ce n'était pas négociable. « T'avoir avec moi me fait plaisir, surtout dans une occasion pareille. » Nietzsche fut soulagé de ne pas avoir à discutailler pendant des heures pour faire partie de l'expédition. À part ça, son angoisse augmenta plutôt parce que les propos de Richard n'avaient rien de rassurant. Mais le plus important pour commencer était d'assurer une protection maximale au chef du Nouveau Monde. « Et Kara vient aussi, » ajouta l'ancienne maîtresse de la mort. « Bien entendu, » marmonna distraitement Richard. Nietzsche s'avisa soudain qu'il regardait fixement le sud. « Tom et Friedrich étant rentrés, je suis sûr que notre bon géant voudra en être aussi, et ses talents nous seront précieux. » Membre d'un corps d'élite chargé de protéger le seigneur Hall, Tom était d'une formidable efficacité. D'un abord aimable, toujours souriant, c'était un guerrier sans pitié, car on n'atteignait pas un grade comme le sien en donnant dans l'altruisme béat. Comme beaucoup d'autres gardes du corps d'Aran, Tom était littéralement passionné par sa mission depuis qu'il s'agissait de défendre la vie de Richard. « Il ne pourra pas venir, » dit le sourcier. « Nous voyagerons dans la Slif. Kara, toi et moi pouvons survivre dans le vif argent, pas Tom. » À l'idée de voyager ainsi, Nietzsche eut quelque peine à déglutir. « Et où allons-nous, Richard ?» Le sourcier se retourna et plongea ses yeux gris dans ceux de la magicienne qui frissonna comme s'il pouvait regarder jusqu'au plus profond de son âme. « J'ai enfin compris. »«
Compris quoi ?»«
Ce que je dois faire. » Nietzsche en eut des frissons. La détermination qui brillait dans les yeux de Richard lui coupait quasiment les jambes tant elle était féroce.
« Et que dois-tu faire, Richard ?»
Le sourcier hésita un instant. « T'ai-je remercié d'avoir forcé Shota à me lâcher l'autre jour ?» Nietzsche ne fut absolument pas déconcerté par ce changement abrupt de sujet. C'était un des péchés mignons de Richard, particulièrement quand quelque chose le perturbait. À ces moments-là, trop d'idées se bousculaient dans son cerveau et certaines collisions devenaient inévitables.
« Tu l'as fait, Richard. »
« Une bonne centaine de fois. »
« Eh bien, dans ce cas, merci beaucoup. »
Ce ton absent aussi était caractéristique d'une immersion dans une méditation trop complexe pour que le sourcier garde en permanence le contact avec le monde réel.
« Elle te faisait du mal, n'est-ce pas ?»
Ce n'était pas une question, mais une affirmation, dont Nietzsche était de plus en plus certaine au fil des jours. Elle ignorait ce qu'avait fait la voyante, mais ce bref contact était déjà de trop, elle le devinait. Même en une fraction de seconde, Chaut a été capable d'infliger une douleur considérable à quelqu'un. Après tout, la foudre aussi frappait en un éclair. Richard n'avait jamais révélé à ses amis la nature de la vision que lui avait imposée Chota, et Nietzsche d'instinct refusait de s'engager sur ce terrain glissant.
« Oui, » soupira Richard, « elle me faisait du mal en me montrant la vérité. C'est en partie grâce à ça que j'ai compris ce que je devais faire, même si ça me terrifie. »
Il n'en dit pas plus, mais Nietzsche n'était pas prêt à en rester là.
« Alors, que dois-tu faire selon toi ?»
Serrant la pierre froide des créneaux au point de s'en faire blanchir les jointures, le sourcier se tourna de nouveau vers la cité obscure, aux rues et aux maisons désertes.
« J'avais raison dès le début, » dit-il.
Il tourna la tête vers Kara.
« Quand je vous ai amené dans les montagnes, Kalan et toi. »
La mort de Sid plissa pensivement le front.
« Dans mes souvenirs, vous vouliez vous enterrer dans ces montagnes parce que vous pensiez n'avoir aucune chance de vaincre l'armée de l'ordre. » Il n'était pas question, affirmiez-vous, de conduire des guerriers à la bataille alors qu'ils n'avaient pas une chance de vaincre.
Et c'est la stricte vérité. J'en suis convaincu désormais. Nous ne gagnerons pas.
Chota m'a aidé à le vérifier.
Elle voulait me convaincre de participer à la guerre, mais sa vision et le récit de Djebra m'ont persuadé du contraire. Maintenant je sais qu'il est impossible de vaincre. Donc, ce qui me reste à faire est évident.
Et ça consiste en quoi ?
Richard s'écarta enfin du mur et se retourna.
« Nous devons y aller, ce n'est pas le moment des grandes explications. »
Il partit au pas de course et ses deux amis lui emboîtèrent le pas.
« J'ai déjà fait mes bagages. Richard, ne me diras-tu pas ce que tu as décidé ?»«
Si, mais plus tard. »«
Vous perdez votre temps, » souffla Kara à Nietzsche. « Je l'ai cuisiné pendant des heures sans obtenir le moindre résultat. » Ayant entendu la remarque impertinente de la mort de Sid, Richard prit Nietzsche par le bras et l'attira en avant pour qu'elle marche à ses côtés.
« Je ne suis pas encore au terme de ma réflexion. Quand nous serons arrivés, je m'expliquerai devant tout le monde. Pour le moment, il y a d'autres urgences. »«
Arriver où ?»
demanda Nietzsche.
« Auprès de l'armée d'Aran. La force principale de Jagang entrera bientôt en Dara. Je dois dire à nos officiers qu'ils n'ont pas une chance de remporter la victoire. »
« Voilà qui illuminera leur horizon, »
le railla Kara.
Avant une bataille, les soldats adorent que leur chef suprême les condamne à crever comme des chiens face à un adversaire invincible.
« Tu préférerais que je mente ?»
La mort de Sid foudroya son seigneur du regard. Au bout du chemin de ronde, Richard ouvrit une lourde porte de chêne au pied de la grande tour. Précédant ses deux compagnes, il entra dans une pièce où brûlaient déjà quelques lampes à huile. Nietzsche entendit des bruits de pas dans l'escalier qui débouchait sur la gauche de la pièce.
« Richard !»
s'écria Zed. Richard s'immobilisa et attendit que son grand-père, suivi comme son ombre par Tom, ait déboulé dans la petite salle toute simple.
« Richard, que se passe-t-il ? Rika est venue me dire que tu t'en vas. »
« Je voulais que tu le saches, mais je ne serai pas absent longtemps. Quelques jours au maximum. » Avec un peu de chance pendant ce temps, Anna, Nathan et toi trouveraient quelque chose d'utile contre le sort d'oubli. Et qui sait, contre la contamination laissée par les carillons.
Zed eut un geste d'agacement.
« Tant que nous y serons, tu veux que nous dégotions un moyen d'arrêter les orages ? Zed, ne te mets pas en colère contre moi, je t'en prie. D'accord, mais dis-moi où tu vas et pour quelle raison tu pars. »
« J'ai déjà fait mes bagages. » annonça fièrement Tom.
« Désolé, » dit Richard, « mais tu ne pourras pas venir. Nous allons devoir recourir au service de la Slif. »
Zed leva ses bras rachitiques au ciel.
« La Slif ? Tu réussis à me convaincre que la magie n'est plus fiable, et voilà que tu confies ta vie à la créature de vif argent. Aurais-tu perdu la tête, Richard ? Que se passe-t-il, bon sang ?
Je suis conscient du danger, mais je dois courir le risque. »
Tu te souviens du symbole solaire dessiné sur la porte de l'enclave privée ?
Zed acquiesça.
Tu vois mon serre-poignée d'argent ? Il porte le même dessin. Et alors ?
Si tu te le rappelles, je t'ai révélé le sens de cette rune. C'est un avertissement. Ne jamais regarder un seul détail d'un tableau. En d'autres termes, une incitation à ne pas se laisser aveugler par ce qu'on a devant les yeux. Dans un combat, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser l'adversaire décider de ce qu'on observe et de ce qu'on néglige. Car si on se laisse manipuler, on ne voit plus les choses vraiment importantes. Eh bien, j'étais tombé dans le piège. Jagang a réussi à me forcer, à nous contraindre tous, à voir exclusivement une seule chose. Et comme un crétin, je m'en aperçois seulement maintenant.
« Son armée !» s'exclama Nietzsche. « C'est ça que tu veux dire ? Nous nous sommes concentrés sur ses troupes ?
C'est ça, oui. Ce soleil nous souffle qu'il faut être ouvert à tout ce qui existe. C'est ça la symbolique des rayons qui diffusent leur lumière dans toutes les directions. Même quand une menace paraît frontale, un bon stratège ne doit jamais perdre de vue les manœuvres qui visent ses flancs. »
Z ne parut pas très convaincu.
« Richard, tu t'es concentré sur une menace qui nous tuera tous si rien n'est fait. Des millions d'hommes fondent sur nous, décidés à écraser toute résistance et à réduire en esclavage les survivants.
Je sais, c'est pour ça que nous ne devons pas combattre, parce que nous perdrions. »
Le vieux sorcier s'empourpra de colère.
« Alors, que proposes-tu ? Inviter ces barbares à envahir le Nouveau Monde ? Les laisser prendre nos villes et répéter à l'infini ce qu'ils ont fait à Ebinitia ? Tu veux que nos peuples se laissent égorger comme des troupeaux de moutons ?
Z, pense à la solution, pas au problème.
Va donc conseiller ça aux malheureux à qui on coupe le cou. »
Richard se pétrifia, comme si les propos de son grand-père l'avaient foudroyé sur pied.
Z, dit-il après un long silence. « Je n'ai pas le temps de polémiquer. Nous parlerons à mon retour. Le temps est l'élément clé et j'en ai déjà gaspillé trop. J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard. »«
Trop tard pourquoi ?»
grogna Z. Il y eut de nouveaux bruits de pas dans l'escalier, puis Djebra déboula dans la pièce.
« Que se passe-t-il »
demanda-t-elle à Z.
« Mon petit-fils vient de décider que nous devons perdre la guerre, sans même combattre les soudards de Jagang. »
« Seigneur Hal, vous ne pouvez pas penser sérieusement à laisser ces brutes. »
La pitié se tut et avança vers Richard, le dévisageant intensément. Puis elle s'immobilisa, recula d'un pas et devint plus pâle qu'une morte. Claquant des dents comme si elle mourait de froid, elle tenta en vain de parler. Puis ses yeux se révulsèrent et elle s'évanouit. Vif comme l'éclair, Tom la rattrapa au vol et amortit sa chute, l'étendant en douceur sur le sol de pierre. Tout le monde se massa autour de la pitié.
« Que lui arrive-t-il ? » demanda Tom.
« Elle a perdu connaissance, » dit Zed. « Mais je ne sais pas pourquoi. »
S'agenouillant, il posa une main sur le front de Djebra. Richard se détourna et se dirigea vers l'escalier.
« Je te laisse prendre soin d'elle, Zed. Avec toi, elle est entre de bonnes mains.
Moi, je dois me dépêcher, je serai de retour très vite, c'est promis. »
« Mais Richard !»
Le sourcier dévalait déjà les marches.
« À bientôt, Zed !»
lança-t-il en s'éloignant. Sans hésiter, Kara lui emboîta le pas. Sachant que son ami devrait appeler la Slif, ce qui prenait toujours un certain temps, Nietzsche estima qu'elle pouvait rester un peu. Tandis que Zed examinait Djebra, elle s'agenouilla de l'autre côté de la pitié et lui tâta le front.
« Elle est brûlante de fièvre ?
C'est une vision ?»
s'écria Zed.
« Comment le savez-vous ?
J'ai quelques connaissances sur les pitis, et en particulier sur celle-là. Djebra est plus réceptive que ses consoeurs et elle est submergée par une vision. Elle a très souvent des réactions violentes de ce type, mais c'est la première fois qu'elle s'évanouit, d'après ce que je sais. »
« Vous croyez que c'est lié à Richard ?
Comment le saurais-je ? Nous verrons bien quand elle se réveillera. »
Le vieux sorcier refusait de se mouiller et c'était son droit. Mais avant de s'évanouir, la pitié avait bel et bien regardé Richard dans les yeux et c'était un indice très significatif. La magicienne n'avait pas le temps d'attendre le réveil de Djebra. Richard était parfaitement capable de partir sans elle si elle ne se montrait pas au moment du départ. Cela dit, elle ne pouvait pas filer sans savoir si la vision de Djebra concernait le sorcier et la mission qu'il entreprenait. Nietzsche glissa une main sous la nuque de Djebra et posa l'autre sur son front, les doigts écartés.
« Que faites-vous ? »
demanda Zed.
« Si c'est ce que je crois, c'est très risqué et je dirais même terriblement dangereux. »
« Pas plus que l'ignorance, »
dit Nietzsche en libérant une décharge de pouvoir.
Djebra ouvrit les yeux et cria « Non !»« Allons, allons !»
la réconforta Z.
« Tout va bien, mon enfant. Tu es ici avec nous. »«
Qu'avez-vous vu ?»
demanda Nietzsche, contrainte de se montrer direct. Djebra leva les yeux vers la magicienne, tendit un bras et referma la main sur le col de la célèbre robe noire.
« Ne le laissez pas seul !»
Inutile de demander de qui voulait parler la pitié.
« Qu'avez-vous vu ? Ne le laissez pas seul. Vous m'entendez ? Ne le perdez pas de vue un instant. Pourquoi ? Que se passera-t-il si nous le laissons seul ? Il sera perdu pour nous. Qu'avez-vous vu ? »
Djebra tira Nietzsche vers elle.
« Filez, et ne le laissez pas seul. Ma vision n'a aucune importance puisqu'elle ne se réalisera pas si vous m'obéissez. S'il n'est jamais seul, rien n'arrivera. Vous comprenez ? Mais s'il est séparé de Kara et de vous, ce que j'ai vu n'aura plus de sens pour personne. Je ne peux pas vous donner de détails, ayez seulement à l'esprit que tout ce qui pourrait vous séparer doit être combattu et évité. C'est tout ce que vous devez savoir. Allez-y maintenant et restez près de lui. »
Nietzsche acquiesça.
« Tu devrais y aller, » dit Zed. « Dans cette affaire, je suis totalement impuissant. Tout dépend de toi. »
Le vieil homme prit la main de Nietzsche, pas à la façon d'un premier sorcier, mais comme un grand-père qui meurt d'inquiétude pour son petit-fils.
« Reste avec lui, Nietzsche. Protège-le. Je sais qu'il est le sourcier de vérité, le seigneur Ral et le chef de l'Empire d'Aran. Mais au fond de lui, il reste Richard. » Un guide forestier, amoureux de la nature et incapable de faire du mal à une mouche. C'est notre Richard. Protège-le, je t'en prie, parce que tout repose sur ses épaules.
Nietzsche regarda un moment le vieil homme. Sa supplique, étonnamment personnelle, ne faisait pas référence à la nécessité de sauvegarder la liberté du nouveau monde et l'avenir de ses enfants. C'était une affaire d'amour. D'amour pour Richard. Un être humain précieux comme tous les autres, parce que unique et irremplaçable. Pour elle aussi, comprit la magicienne, la cause importait moins que l'affection qu'elle portait à un individu nommé Richard. Alors qu'elle faisait mine de se relever, Djebra la tira de nouveau vers elle.
« Ce n'est pas une vision virtuelle, comme certaines prophéties. Si les événements s'enchaînent, il s'agit d'une absolue certitude. » Alors ne le laissez pas seul, ou il sera à leur merci. À la merci de qui ?
Djebra se mordit la lèvre inférieure et des larmes perlèrent à ses paupières.
La magicienne noire.
Nietzsche sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale.
Allez-y,
murmura Djebra.
Dépêchez-vous, qu'il ne parte pas sans vous surtout.
Nietzsche se releva et traversa la salle. Avant de s'engager dans l'escalier, elle se retourna.
« Zed, je jure de le protéger jusqu'à mon dernier souffle. »
Le vieil homme hocha tristement la tête.
« Vite !»
Nietzsche se détourna et dévala les marches à toute vitesse. Que risquait donc Richard si Kara et elle le laissaient seul ? Djebra le savait, mais elle n'avait rien voulu dire. Au fond, elle avait raison. Cette horreur ne comptait pas puisqu'il n'était pas question de lui permettre d'arriver. Alors à quoi bon se torturer l'esprit ? Tandis que Nietzsche dévalait les marches, de véritables nuages de chauves-souris, dérangés par cette intruse, s'envolaient vers les hautes fenêtres de la tour. Bientôt, les fragiles animaux se mettraient en chasse de leur pitance, profitant de la nuit pour faire des ravages dans les rangs des insectes. Pour l'heure, le claquement de milliers d'ailes donnait l'impression que la tour poussait un long gémissement modulé. Sur les paliers, Nietzsche franchit à la volée des portes de fer qui grinçaient sur leurs gonds comme si on ne les avait plus huilées depuis des siècles. Emportée par son élan, la magicienne devait parfois s'accrocher à la rampe pour ne pas tomber. Arrivée au pied des marches, elle courut le long de la passerelle qui contournait les eaux fétides accumulées au pied de la tour. Dérangée par de petites créatures qui nageaient avec une étonnante vigueur, l'onde obscure ondulait de ci de là. Nietzsche passait à la course l'entrée proprement dévastée à l'époque où Richard avait détruit la barrière qui séparait jusque-là le nouveau monde de l'ancien.
Soufflée par l'explosion, la lourde porte était allée s'écraser à plusieurs dizaines de pas de là. Alimentée en magie par des tours très particulières qui se dressaient dans la vallée des âmes perdues, la barrière avait tenu pendant près de 3000 ans. Jusqu'à ces dernières années, elle avait empêché Jagang de mettre à exécution son grandiose plan d'invasion du Nouveau Monde. Après s'être enfui du palais des prophètes où les Sœurs de la Lumière le gardaient prisonnier, Richard avait détruit ses édifices. Une obligation s'il voulait pouvoir rentrer chez lui. Mais cela avait également profité aux hordes de l'ordre impérial, désormais en mesure de déferler sur le Nouveau Monde. Si Richard n'était pas responsable de la guerre, il fallait bien reconnaître qu'elle n'aurait pas pu avoir lieu sans sa discutable initiative. Debout sur le muret qui entourait le puits de la Slif, Kara et le sorcier étaient déjà prêts au départ. Dès que Nietzsche fut entré dans la salle, l'étrange créature de vif argent lui posa sa question rituelle d'une voix puissante qui fit vibrer les murs.
« Veux-tu voyager ?»«
Oui, je veux voyager, »
répondit la magicienne. S'immobilisant un instant, elle se pencha pour ramasser son paquetage que la mort de Sith avait dû déposer là pour elle.
« Kara, merci beaucoup. »
« Allons, viens nous rejoindre !» lança Richard en tendant une main à son ami.
Nietzsche se laissa hisser sur le muret par la poigne rassurante du sorcier. Pour être honnête, elle ne se sentait pas trop en forme depuis quelques minutes. Bien qu'elle eût déjà voyagé ainsi et expérimenté l'extase liée à ce moyen de transport, elle n'était pas très rassurée à l'idée de devoir respirer du vif argent. Un tel concept semblait tellement contradictoire avec la notion fondamentale de souffle de la vie.
« Tu seras satisfaite, »
assura la Slif lorsque Nietzsche eut pris pied sur le muret. L'ancienne maîtresse de la mort ne jugea pas utile de contredire la créature magique.
« Allons-y !»
s'impatienta Richard.
« Je veux voyager !»
Un bras de vif argent émergea du puits pour s'enrouler autour de la taille de Kara et de Richard. Mais pas de Nietzsche.
Un instant,
s'écria la magicienne.
Je dois venir avec eux. Richard, tu devras nous prendre la main, à Kara et moi, et ne nous lâche sous aucun prétexte.
Nietzsche, tu as déjà voyagé dans la Slif et...
Écoute-moi, Richard. Kara et moi te faisons confiance et tu dois nous rendre l'appareil. Tu ne dois pas être séparé de nous, sous aucun prétexte, et même pas pour une fraction de seconde. Si ça arrivait, tu serais perdu pour nous et tous les plans que tu as prévus ne se réaliseraient jamais. »
Richard ne fut pas long à comprendre.
« Jebra a eu une vision, c'est ça ?»«
Oui, mais rien ne se passera si nous restons ensemble. »«
Tu sais ce qu'elle a vu ?»«
La voyante, Sis. Elle l'a appelée la magicienne noire. » »«
Shota va s'occuper de sa rivale. » »«
Elle essaiera, mais en attendant... » Sis l'a déjà supplanté sur son propre territoire.
Provisoirement, c'est tout. Je ne voudrais pas être à sa place quand Shota lui mettra la main dessus.
Dans son château, elle a un trône recouvert de peau, celle d'un sorcier qui avait la prétention de lui voler son fief.
Je ne conteste pas les qualités de Shota, mais nous ignorons jusqu'à quel point Sis est dangereuse. Le pouvoir varie en fonction des individus. Il se peut que Sis soit un trop gros morceau pour Shota. Je me rappelle que les Sœurs de l'Obscurité redoutaient cette voyante. Richard, Jebra a dit que nous ne devions pas être séparés afin d'éviter une catastrophe. J'ai l'intention de suivre ses instructions à la lettre.
Connaissant la détermination de Nietzsche dans les moments de crise, le sourcier n'insista pas.
Très bien. Il prit la main de chacune de ses compagnes. Ne me lâchez pas et nous n'aurons aucun souci à nous faire.
Nietzsche serra la main de son ami, puis elle se pencha vers Kara.
« Tu as compris. Nous ne devons pas le perdre de vue une seconde. »«
Comme si j'avais l'habitude de le perdre de vue, » marmonna la mort de Sith.
« Où veux-tu aller ?»
demanda la Slif à Nietzsche. La magicienne ne comprit pas tout de suite que c'était à elle de répondre.
« Eh bien, au même endroit que mes amis. »«
Désolé. » « Mais je ne peux pas dévoiler ce que font mes clients lorsqu'ils sont en moi. Indique une destination et je te satisferai. »
Nietzsche interrogea Richard du regard.
« Elle est très discrète,
une sorte de déformation professionnelle. Nous allons au palais du peuple.
Le palais du peuple,
annonça Nietzsche.
C'est là que je désire me rendre.
Avec Kara et moi, précisa Richard. Nous allons au même endroit, tu as compris? Nous resterons ensemble.
Oui, maître.
Maintenant, nous allons voyager et tu seras content.
Le bras de Vif-Argent enlaça les trois voyageurs et les souleva dans les airs. Angoissé, Nietzsche serra très fort la main de Richard. Lorsqu'elle fut immergée dans le Vif-Argent, la magicienne retint son souffle. Elle devait respirer, elle le savait, mais cette idée la terrorisait.
« Respire !»
Lorsqu'elle ne put plus se retenir, Nietzsche inhala du Vif-Argent. Aussitôt, des couleurs lumineuses et des ombres mystérieuses se mirent à tourbillonner autour d'elle. Émerveillée, l'ancienne maîtresse de la mort se laissa entraîner dans l'inconnu, avec le sentiment d'être une petite fille que Richard tenait par la main. La plongée devint vite vertigineuse. S'abandonnant à l'ivresse du voyage, Nietzsche oublia tout ce qui pesait sur son âme et l'empêchait d'être heureuse. Plus rien n'existait que son lien avec Richard. Ils étaient seuls au monde. Une fabuleuse extase. Et Nietzsche aurait donné le monde entier pour que cet instant dure jusqu'à la fin des temps.